France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Christine Angot. J'ai lu La Nuit sur commande. Vous m'avez vraiment surpris, Christine Angot. Vous revisitez toute votre vie en poussant votre réflexion sur des contraires. J'ai aimé ce pied de nez que vous faites, en menant le lecteur vers ce qu'il n'attend pas.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
L'art dans la vie, aujourd'hui au programme de votre book club est la grande question de savoir qui commande. Invitée par une collection littéraire à passer une nuit dans le musée de son choix pour en écrire un livre, la narratrice du dernier texte de Christine Angot fait une sorte d'examen de la place que tient l'art dans son existence. Depuis les visites au musée avec son père, qui était suivi de l'inceste qu'elle subissait de retour à l'hôtel, à son amitié avec Sophie Calle ou Catherine Millet, aux études de sa propre fille, aux codes et usages des milieux concernés, jusqu'à la question essentielle, sa propre pratique de l'écriture. À chaque fois, des rapports de classe, d'argent et de domination y sont révélés. Christine Angot est notre invitée pour son livre La Nuit sur commande. Vers 15h50, fin de résidence pour Clémentine Mélois qui nous livre ses dernières lectures d'actu, collection de phrases et queues de cerises et romans de Philippe Catic. Ce sera avec elle. Et en fin d'émission, on joue à chercher de la musique dans les livres pour le grand jeu des pages musicales. Nous voilà ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Christine Angot.
Bonjour.
Votre livre, La Nuit sur commande, apparu dans la collection Ma Nuit au musée aux éditions Stock. Il sera au cœur de notre conversation dans un instant. Mais ici, tout commence toujours par le portrait de nos invités en tant qu'ils ont rencontré ou elles ont rencontré sur leur chemin des livres en tant que lectrice ou lecteur. J'avoue vous avoir assez peu entendu parler de votre rapport à la lecture. Je le disais, ce texte-là, il a au cœur, presque son cœur battant, c'est pourquoi j'écris, qu'est-ce qu'écrire vraiment. Il y a un passage où on vous voit lectrice, c'est dans la maison qu'habitent votre père et la femme de votre père, mais c'est tout. Et de manière générale, c'est rare de vous voir ou de vous percevoir lectrice. Quelle place occupe la lecture dans votre vie quotidienne aujourd'hui ?
Ce sont des... Il y a des marques. Il y a des livres qui sont là comme des marques, comme des qui prennent une place bien particulière et qui ensuite n'en bougent pas de cette place. Voilà. Donc ça, c'est présent tout le temps, de toute façon. Voilà, c'est présent dans la tête. Et puis après, après c'est autre chose. Après, il y a des livres qui rentrent dans la maison et que j'ouvre, que je lis jusqu'au bout, ou pas forcément. J'ai un rapport assez libre avec ça, avec le fait d'aimer ou de ne pas aimer, d'aimer un style ou de trouver que... que j'entends pas de voix, par exemple. Je suis pas quelqu'un qui s'obstine.
Vous fermez volontiers des livres quand ça y est.
Pas volontiers.
Non, pas volontiers. Mais librement.
Mais librement, oui, parce que ça va très vite quand même. C'est comme dans la vie, une voix.
Vous entendez ou pas, quoi.
Bah oui, c'est quand même pour moi, c'est avant tout. C'est la voix, enfin c'est le son, la musicalité de la personne. C'est la musicalité de la personne qui dit son intelligence des mots, quand même. Donc pour moi, ça, c'est crucial, vraiment.
Vous parlez de livres marques qui sont toujours là, et vous en parlez presque comme s'ils étaient là dans l'espace autour de vous.
Ouais.
Est-ce que vous voulez en donner quelques-uns ?
Par exemple... Il y a un livre qui, pour moi, revient toujours quand il arrive qu'on me pose la question. C'est celui-là auquel je finis par penser toujours. C'est La Princesse de Clèves. Pour moi, ça, quand je découvre ça...
Vous avez quel âge ?
Je me souviens plus. Franchement, je me souviens plus. Je ne sais plus. Est-ce que c'est 30 ? Est-ce que c'est 35 ? Est-ce que c'est... Je ne sais plus. Franchement, je ne sais plus. Je n'ai pas de souvenir de ça. Mais en tout cas, quand je le découvre, je suis comme en arrêt, quoi. En arrêt. Devant cet équilibre incroyable. Je crois que c'est ça qui est le plus important pour moi, c'est l'équilibre.
Entre quoi et quoi ?
Ben, l'équilibre d'une phrase. L'équilibre de la phrase. L'équilibre de la phrase qui, pour autant, contient des choses déséquilibrantes entre elles. Mais la phrase fait l'équilibre, trouve l'équilibre. Et c'est extraordinaire. Donc là, par exemple, quand on ouvre La princesse de Clèves, la force d'évocation immédiate, premier paragraphe de la cour et de tout ce qui peut nous arriver si on commence à s'intéresser à, aux personnages qui vont la traverser, et avec la voix de la narration, pour moi, c'est indépassable. C'est la grâce absolue.
Et quand vous dites que c'est toujours là, toujours à côté de vous, Christine Angot, ça veut dire que c'est un horizon, ou c'est un compagnon, c'est un texte compagnon? C'est quoi comme genre de présence pour un texte comme La princesse de Clèves, pour vous? Pour vous qui écrivez, on va dire. Si vous faites le pont entre lire ce texte et écrire.
Bah, c'est savoir qu'il y a quelque chose qu'on aime. D'abord, c'est ça. Quelque chose qu'on aime. Et quelque chose qu'on aime, dont on se souvient. On se souvient de la forme de perfection qui est ressentie en le découvrant.
Et pour ensuite, la vie, dans le parcours, oui. Pas tant pour le travail en vrai.
Comment ?
Je veux dire, c'est plutôt pour la vie, c'est un acquis pour la vie, pas tellement comme un point d'horizon pour le travail.
Il n'y a aucune différence.
Oui.
Un écrivain, il y a pas de travail dans la vie d'un écrivain. Ça n'existe pas, le travail. Donc, ça ne s'appelle pas du travail. C'est la vie qui... C'est la vie et l'écriture. Ça va... La vie qui s'écrit, quoi. Mais moi, je... Donc, forcément, ça ne se sépare pas. Il n'y a aucune raison.
Est-ce qu'il y a un autre livre, Marc, que vous voulez évoquer avec nous ?
C'est pareil, c'est le même genre de... c'est la cousine bête de Balzac, c'est ce jeune auteur, Marcel Proust, Toussaint-Coup, qui est un jeune auteur. Qui est un jeune auteur. C'est découvrir que c'est un jeune auteur. Ça, je ne l'ai pas compris la première fois que je l'ai lu. Mais peut-être la deux ou troisième fois. Je me suis dit, mais c'est un jeune auteur.
Mais vous l'avez compris parce que d'un seul coup, vous l'avez su, ou parce que vous l'avez
non,
compris?
Non, parce que je l'ai
senti.
Lu. Parce que je l'ai senti. Je me suis dit, c'est un jeune auteur qui nous raconte ces trucs, quoi. Et ça m'a beaucoup touchée. Et à ce moment-là, j'ai commencé à le lire différemment. Et puis, il y a Mrs. Dalloway, bien sûr. Et des choses comme ça.
Pourquoi dire... bien sûr, Mrs. Dalloway? Vous parlez à quelqu'un qui vient de le découvrir avec un éblouissement total.
Eh oui. Mais parce que, d'abord, il y a une des plus belles phrases possibles pour entrer dans un livre.
Se chargerait des fleurs?
Oui. Voilà.
Elle-même.
Donc, pourquoi elle est très belle, cette phrase? Parce que le livre a déjà commencé. Quand le livre commence, le livre a déjà commencé. Qui est très différent, par exemple, dans La princesse de Clèves. Dans La princesse de Clèves, la lumière se fait. C'est complètement différent. La lumière se fait. On n'est pas dans la même époque non plus de la pensée. Pas du tout la même chose. On n'est pas dans un château. On n'est pas. Ça n'a rien à voir. Rien. On est au seuil d'une maison qui est au même niveau que le trottoir. Et donc, c'est très différent.
Ouais. Mais là aussi, il y a quelque chose de l'équilibre de la phrase de Virginia Woolf qui vous arrête, Christine Angot ? Ou c'est différent?
Alors là, c'est pas tant l'équilibre que la capacité à poursuivre sa phrase en précisant et en précisant et en nuançant et en avançant quand même. C'est plus ça, pour moi.
J'ai commencé par dire que j'avais lu très peu de choses sur vous en tant que lectrice. Et les choses que j'ai lues, c'est vous en train de dire combien c'était presque inapproprié, en fait, de parler de soi en tant que lecteur ou en tant que lectrice, que c'était pas quelque chose sur quoi il était intéressant de parler sur, presque aussi contre nature que de parler sur les livres qu'on a, qu'on a écrits. Vous validez?
Bah, c'est-à-dire qu'il y a un petit côté... Il y a un petit côté ah là là la littérature les écrivains la littérature tel livre voilà.
C'est quoi un côté crâneur, un côté
je connais des choses,
faire valoir social,
un côté je connais des choses très belles et vous feriez bien de vous en inspirer de ma pratique.
Et peut-être que vous
donc il y a quelque chose là qui il y a souvent une espèce de petite chose comme ça qui fait que je cours pas après.
Et quand il y a pas ça existe qu'il y ait autre chose quand même. Ça existe que
par oral. Par oral, je sais pas.
Par oral, vous savez.
Par oral, c'est pas si fréquent.
Et à l'écrit,
vous avez... Ou alors entre des personnes qui se parlent dans la vie, oui.
Oui.
Mais sinon, la prise de parole publique
sur la lecture.
La lecture me paraît toujours un tout petit peu assortie d'une leçon.
Comment on fait pour échapper à ça? Comment on fait pour produire une parole publique sur les livres, sur la lecture, sur un exercice très intime, qui réussisse
J'ai l'impression que c'est un travail et qui n'est pas le mien, mais qui est le vôtre.
Comment? Chaque jour. ça me tient à cœur. Donc
c'est vous qui savez, d'accord.
Ouais. Je vais poursuivre, en tout cas. Ouais. Bah, peut-être mettre à jour cette question-là, c'est une manière de déjouer éventuellement le piège.
C'est-à-dire, de toute façon, c'est la grande difficulté. Hein. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, toute parole disant, par exemple, les gens ne lisent plus, disant il faut que les jeunes gens lisent, toute campagne, comment on appelle ça, d'affichage,
d'incitation, d'encouragement à la lecture.
Médiatique, d'encouragement à la lecture, etc. Mais les gens en infériorité d'emblée. Mais si vous saviez ce beau pays qu'est la lecture, comment ça se fait que vous ne le connaissez pas, etc. Mais que vous ne savez pas ce que vous ratez. Ça ne peut pas marcher.
Comment vous avez découvert que ça existait, ce pays-là?
On ne peut pas prendre quelqu'un par la main tout en l'infériorisant. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Et en même temps, vous avez découvert comment que ça existait, le pays des livres et de la littérature,
moi, c'est totalement différent. Moi j'ai grandi dans une maison...
Où
il y avait des livres de poche. C'était le début des livres de poche, je pense. Et ma mère achetait... Ma mère lisait, elle achetait des livres... Elle achetait des livres et elle les lisait.
Et elle vous en parlait?
Quand j'étais petite, non, pas forcément. Mais en tout cas, elle m'en achetait. À moi.
Et vous aimiez ça lire, tout de suite?
Oui, bien sûr. Oui.
Et le trait d'union s'est pas fait immédiatement entre la lecture et l'écriture?
Non, pas du tout. Non, ça s'est fait... Est-ce qu'il y a un trait d'union, d'ailleurs? Je sais pas. Pas forcément un trait d'union. Mais non, ça s'est fait beaucoup plus tard. Enfin, j'avais plus de 20 ans. Non, j'ai jamais...
Est-ce que vous lisez tous les jours?
Oui. Pas forcément, parfois, ça peut être un quart d'heure, mais c'est ce qu'on nous a conseillé récemment, je crois.
De manière nationale, voilà. Par une campagne d'encouragement.
C'est ça. Qui commençait par un quart d'heure. Bon, mais... ce qui me gêne aussi là-dedans, c'est qu'on dirait que c'est de l'hygiène, voyez. Prenez l'air un quart d'heure, c'est ça qu'on dit aux gens. Il faut qu'ils se dégourdissent les jambes, il faut qu'ils aillent se promener un peu.
Du reste, ça fait jamais de mal d'aller marcher un quart d'heure.
Voilà.
On est d'accord.
C'est sûr, mais on préfère le faire de soi-même, en fait, plutôt que de le faire parce qu'il faut le faire. Et la question, plus la lecture sera quelque chose qu'il faut faire, moins on lira. Moi, j'ai pas du tout envie de faire quelque chose qu'il faut faire.
Et alors, pour remplacer ça par...
Sauf qu'il y a des livres, à partir du moment où on lit, parfois il y a des livres dont on sait qu'il faut les lire.
C'était ma question suivante, Christine Angot. Remplaçons ça par le désir.
Bah oui.
Et alors, qu'est-ce qu'il faudrait lire? Qu'est-ce qui serait un horizon de lecture pour vous?
Alors moi, en tout cas, je sais qu'à un moment, je savais qu'il fallait lire Proust. Tout le monde sait ça. À un moment, tout le monde sait qu'il faut lire Proust. Voilà, c'est comme ça. Enfin, tout
le monde.
Ah non,
vraiment tout sauf tout le monde, non?
Je pense qu'énormément de gens savent qu'il faut lire Proust en France. Ça ne veut pas dire qu'ils le font. Ça ne veut pas dire qu'ils le mettent au programme. Mais l'idée,
on sait que c'est là. Ouais.
Voilà, l'idée que Proust, il faut le lire ou l'entendre. Hein, parce que ça aussi, c'est une chose, ça ne remplace pas, hein, mais ça ne remplace pas. Mais c'est quand même un bel accès d'entendre aussi.
Puisque Proust s'est fait pour vous et que c'est un jeune auteur, Christine Angot, est-ce que vous avez un horizon de lecture? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous savez qu'il vous faudra lire? Que vous désirez lire?
Les horizons, pour moi, c'est pas des horizons de lecture. C'est des horizons d'écriture. Donc...
Il faut savoir la priorité dans la vie.
Non, mais c'est... Les choses... Voilà, on sait tous les livres qui sont... Mais il y a des livres qu'il faut lire et que j'ai essayé de lire et que qui ne m'intéressent pas, que je peux pas... J'ai pas envie de lire. Bon, voilà, quand c'est comme ça, c'est tout, ça me... Mais je laisse tomber, mais... Parce que derrière l'idée d'un horizon de lecture, il y a un peu l'idée d'une angoisse quand même. C'est-à-dire, je ne l'ai pas encore fait. Et je n'ai pas d'angoisse par rapport à ça. En revanche, je peux en avoir, et j'en ai, par rapport à... aux choses à écrire. Par rapport, enfin, pas aux choses à écrire, mais aux livres à écrire.
On va parler de votre dernier livre... qui s'appelle « La nuit sur commande », Christine Angot. C'est un récit où apparaît entre autres votre relation avec votre fille Léonore et son goût pour l'art, juste après cette chanson à laquelle on a été mené par une association auditive. C'est une chanson de Dominique A qui, elle, s'appelle « Éléor », une lettre près. C'est une sorte d'île au loin qu'on peut rejoindre quand tout nous lasse et qu'il n'y a plus rien à cacher.
Quand de tout vous serez lassé, juste un canal à traverser, rejoignez-moi à Éléor. Avant que la vie ne se défile, avant de gagner l'autre bord, rejoignez-moi. Pendu au pater et l'immuable pour bréviaire, les tracés blancs sur la chaussée, fourmillement de mille pensées, les galeries à ciel ouvert. Oh Dieu, que ce silence rend fou dans la brume en pièces détachées. Qu'avons-nous encore à cacher quand il reste si peu de nous? Oh Dieu, que ce silence rend fou quand délibèrent nos cellules, comme alors l'air est minuscule. Un canal à traverser, rejoignez-moi. Avant que la vie ne se défile, avant de gagner l'autre bord, rejoignez-moi.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Qu'est-ce que c'est écrire vraiment ? Est-ce qu'on écrit vraiment en répondant à une commande ? Qu'est-ce que ça veut dire vivre pour l'écriture ? Qu'est-ce que ça suppose intimement, amoureusement, concrètement, de vouloir vivre de son écriture ? Qu'est-ce que c'est appartenir à un milieu littéraire où s'échange la crédibilité des uns contre l'aisance matérielle des autres ? Autant de vastes questions dans votre book club cet après-midi. Vous écrivez, Christine Angot, que le titre de votre nouveau livre, La nuit sur commande, vous l'avez trouvé tout de suite. Il établissait un tel lien, je vous cite, entre la commande éditoriale de passer une nuit au musée et la commande sexuelle à laquelle vous aviez pu être confrontée à tout moment de certaines nuits entre 13 et 16 ans et pendant 2 mois à 25 ans par l'inceste que vous faisiez subir votre père, que ce livre ne pouvait, ne devait que s'écrire à partir de là. C'est comme si cette violence vous avait rendu hyper lucide aux relations de domination et de hiérarchie. À vous lire, avec ce titre-là, la machine était lancée. Le mot machine, c'est le dernier mot de votre texte. Vous êtes bien devant, avec la machine. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne, l'écriture ? Il y a des titres extraordinairement percutants dans votre bibliographie et on a presque l'impression qu'à partir d'eux, quelque chose s'élance.
Oh, j'avais peut-être déjà commencé à écrire quelques... J'ai pas trouvé le titre avant tout. Je l'ai trouvé assez tôt, mais j'avais commencé... J'étais déjà dans le livre quand même. Donc je peux pas dire que je me suis élancée à partir du livre. Mais oui, il venait... Il était juste.
Il a produit quelque chose dans le travail, dans l'écriture, quand vous l'avez trouvé, ce titre-là ?
Non. C'était pas nécessaire, c'était pas sa fonction. Sa fonction, c'était pas de m'aider, moi, c'était peut-être, en revanche, de trouver... de trouver un nom. Il faut trouver un nom à ce livre. Je pouvais pas faire comme si c'était... un livre tout à fait comme les autres, c'est-à-dire que j'aurais cherché indépendamment d'une direction qui m'avait été donnée. C'est pas exactement ça. Et d'ailleurs, au départ, je pensais que ça allait me faciliter les choses, puisque on part en général du vide. Donc là, a priori, il y avait moins de vide, puisqu'il y a quelqu'un qui dit, tiens, voilà, ça pourrait être une nuit au musée. OK. Puis après, il y aurait peut-être un lieu. Donc, OK. Bon, en fait, ça ne change pas le problème. C'est exactement la même chose. Ça, c'est ce que j'ai découvert.
Et si vous essayez de décrire ce que serait le problème ou exactement la même chose, Christine Angot, ce serait quoi ? Qu'est-ce qui ne change pas ?
Ce qui ne change pas, c'est quoi écrire. Ça qui ne change pas. Je veux dire, même quand il y a une matière...
Donc la proposition qui vous est faite, voilà, pour cette collection de stocks, de passer une nuit au musée...
Et même quand on sait quel musée, même quand on le visite, même quand on le voit...
La Bourse du Commerce à Paris...
Il y a plein de choses à regarder, etc. Oui, bon, mais le problème va être, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me projeter là sur la toile. Là. Je vais donner mes élans. Je vais dire, ah, c'est beau. Je vais dire ça. Ou je vais dire, ah, ça veut dire ça. Ah, c'est ça. Je vais faire ça. Je vais faire une sorte de commentaires artistiques ou je vais prendre le métier des historiens d'art ou des critiques d'art et en disant, ah oui, mais attention, moi je suis écrivaine, hein, donc je fais comme vous, hein, mais moi je mets un peu de, voilà, je mets ma patte, voilà, et mais toujours en se projetant comme ça. Or non, ça me j'y arrivais même pas. La seule chose qui soit vraiment décrite, vraiment. D'ailleurs, beaucoup de choses qui sont décrites concrètement le sont par la voix de Léonore dans des dialogues, la plupart du temps. moi, je ne sais pas décrire une œuvre d'art. Je ne sais pas décrire une œuvre d'art. Et ensuite, l'idée de transmettre des émotions par rapport à des œuvres d'art, je ne me vois pas faire ça. Quand ça arrive à un moment avec Sainte-Thérèse, à Rome, c'est très différent. C'est très différent. C'est parce que ça rejoint, justement, l'au-delà, on pourrait dire. C'est-à-dire que Sainte-Thérèse qui voit l'ange, c'est la même chose que moi, quand je découvre voilà. Vous voyez ce que ça donne? Voilà. On ne peut pas le dire. Donc, je vais le dire d'une manière pas terrible, mais que je pourrais peut-être écrire.
Mais vous dites, la question, Christine Angot, c'est toujours de savoir quoi écrire. Moi, j'ai énuméré quelques grandes questions qui m'a semblé rencontrer dans ce texte-là. À quel moment vous vous êtes dit, OK, c'est ça que je vais écrire?
Vous voulez dire pour ce livre-là?
Oui, pour ce livre-là, La nuit sur commande.
Alors,
parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce texte.
Oui, bien sûr. Ben, en fait, ce qu'il faut trouver, c'est la situation, la banalité de la situation, la base, et surtout, comment c'est incarné. Donc là, c'est incarné par « J'ai grandi dans une petite ville, Châteauroux, où la visite... » « J'ai grandi dans une petite ville, Châteauroux, où la... » Comment c'était ?
J'ai grandi dans une petite ville, Châteauroux, où la fréquentation de l'art se résumait à la visite du musée municipal.
J'ai appris longtemps après qu'il abritait des œuvres de Camille Claudel. Je ne connais pas. Le seul tableau dont je me souviens et que je revois vaguement parce qu'on s'arrêtait devant est le portrait du général Bertrand.
Le musée portait son nom.
Il en était le fondateur. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il a, il y a une narratrice qui est située... Dans une rue bien précise, qui dit voilà, là il m'est arrivé ça, à ce moment-là, voilà la première fois que. Parce que ce qui compte, c'est pas les tableaux qu'on va décrire ou sur lesquels on va déverser nos émotions, je ne sais pas quoi. Ce qui compte, c'est pas nos émotions, en fait. Ce qui compte, c'est qui, quoi, quand et où, qu'est-ce qui s'est passé. C'est tout. C'est tout. Il n'y a rien d'autre qui compte. Et les émotions peuvent venir dans des phrases de dialogue.
Je vous confirme.
Voilà.
Et d'ailleurs, elles surgissent pas que à propos de l'art dans des phrases de dialogue. La plupart des dialogues de ce texte-là, certes, vous en rapportez quelques-uns du milieu de l'art, puisque vous revenez sur la place qu'occupe qu'occupe l'art dans votre vie, Christine Angot, à partir du moment où vous liez certaines amitiés. Mais les dialogues où surgissent le plus d'émotions, ce sont les dialogues avec votre fille, avec Léonore, que vous invitez d'une certaine manière à ce dialogue, en fait, de La nuit sur commande. On va écouter un extrait de votre texte, lu par Jeanne Aléos.
La première fois que je me suis aperçue que Léonore aimait l'art, elle avait 9 ou 10 ans. C'était à Beaubourg, elle s'arrêtait longuement devant chaque œuvre, alors que moi je filais. Puis en quatrième, à l'occasion d'un exercice proposé par la professeure de français, chaque élève devait constituer sa collection particulière. Il devait faire des recherches, sélectionner des œuvres et les présenter dans un dossier. Léonore allait au musée seule et régulièrement depuis quelques années. Il y avait des artistes qu'elle aimait, sa collection particulière est devenue une préoccupation quotidienne. Une amie encadreuse lui a offert un papier cartonné qu'elle a utilisé pour la couverture, un plus fin qu'elle a pris pour les pages intérieures. Elle a passé une couche de peinture blanche, épaisse, qui laissait voir les traces du pinceau sur la couverture. Elle a découpé les lettres de « collection particulière » dans du papier d'aluminium, en prenant soin de ne pas les déchirer, et les a collées en les retournant sur elle-même, en miroir, au centre de la couverture. Elle voulait qu'il y ait une unité entre les œuvres. Il y avait la petite victoire de Samothrace de Yves Klein, le jardin d'hiver de Dubuffet, l'installation Valstar Barbie de Claude Lévesque et un miroir de David Amons, auquel était accroché un papier de basket et un candélabre. Quelques lignes en regard de chacune disaient pourquoi elle les aimait.
Un extrait de votre livre La nuit sur commande, Christine Angot. Quelle place tient Léonore, presque géographiquement, dans l'écriture de ce chemin? J'ai toujours été surprise quand elle arrivait.
Ah oui?
Ouais, et j'ai adoré. Je me suis dit, ah tiens, elle y revient.
Léonore revient, vous voulez dire?
Oui, ou la narratrice revient à sa fille.
Ah, enfin, oui.
En tout cas, la revoilà, quoi.
Oui, oui, d'accord. Quelle place elle tient? Elle est celle qui peut être à qui j'ai demandé. J'aurais pas pu demander à qui que ce soit d'autre. Toute seule, je trouvais ça triste, je trouvais ça ennuyeux, ça me disait rien, ça me plaisait pas.
D'aller passer cette nuit au musée.
Ouais, ça me plaisait pas. Ça m'inquiétait aussi. Je sais pas, qu'est-ce que j'allais faire là toute la nuit comme ça. Donc je sais pas, il y a quelque chose là qui me plaisait pas trop. Et puis qu'est-ce que j'allais dire? Je sais pas, je sentais que j'allais rien tirer de. Et donc, je sais, c'est la gaieté en fait, le plaisir. Ça échappe au travail. Si elle est là, c'est pas du travail. Ça peut pas être du travail si elle est là. C'est impossible. Donc, ok, ça peut se faire du coup. Parce que la question du travail, l'écriture comme un travail, je suis pas sûre que, enfin, si c'est un travail, je pense que ça marche pas. Pour moi, ça marche pas. Il y a un moment, il y a quelque chose qui va pas se passer.
Parce qu'on vous demande de le faire d'un coup.
Qu'on me le demande ou je sais pas ou. Il faut trouver un moyen pour que ça soit, pour que j'ai envie. Voilà. Il faut que j'ai envie. Donc là, comment faire pour que j'ai envie de m'enfermer dans un musée, seule? Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que je peux trouver?
Aller avec votre fille.
Ben oui. Je peux pas. L'idée de me dire, ah, c'est extraordinaire, je vais être face à telle œuvre. Non, mais je peux y aller la journée aussi aux heures d'ouverture, hein, c'est pas un problème. Voilà, il faut avoir envie. C'est ça le principal pour écrire. Il n'y a pas d'autre raison. Il faut avoir envie. Envie. Et envie de ce qu'on pourrait écrire. Et c'est le seul véritable moteur. C'est la seule chose qui marche, en fait.
Mais vous passez pas mal de pages, Christine Angot, à essayer de décrire les conséquences que ça a sur une existence, de décider de vivre avec l'écriture, pour l'écriture, par l'écriture.
Oui. Ça, c'est autre chose.
Votre fille vous dit, tu n'étais pas occupée par l'écriture, tu en étais obsédée. J'ai eu une mère obsédée par l'écriture, ou c'est peut-être vous qui le formulez.
Possédée,
absolument possédée.
C'est vrai.
Ce texte raconte aussi ça. La manière dont votre vie liée à l'écriture.
C'est pas de tout repos, c'est pas facile. C'est pas facile, ni pour moi, ni pour l'enfant qui est le mien, ou qui est la mienne, en l'occurrence. Et dont je suis la mère, et voilà, pour elle, il y a des choses bizarres, quoi, enfin... Oui, bien sûr. C'est particulier. Parce que, d'ailleurs, vous savez, c'est un grand classique hein, de dire « Ah, mais l'œuvre, tout ça, c'est l'enfant. Les livres sont les enfants. Bah, » alors d'abord, non. Non.
C'est pas pareil, ouais.
Voilà. Et ensuite, si c'était ça. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les enfants? Donc, c'est juste... En fait, quand vous écrivez, vous êtes absent à vous-même. Vous devenez absent à vous-même. Bon. Et donc aux autres, forcément. Donc, vis-à-vis des autres, pendant que vous écrivez. Mais vous écrivez d'abord pas... tous les jours sans exception, enfin, ce n'est pas un truc que vous faites en permanence. Et puis même dans une journée, même dans les périodes où vous écrivez, il y a des moments où ça s'arrête. Hein. Donc là, mais quand vous écrivez, vous êtes absent à vous-même, vous ne pouvez pas être présent à quelqu'un d'autre. C'est juste pas possible. Bon, là, si je la fais entrer dans le lieu que je préfère, c'est-à-dire l'abstrait,
De l'écriture.
Si je la fais entrer, pour moi, il n'y a rien de mieux.
Vous êtes là où vous préférez et vous pouvez être avec elle.
Bah, il n'y a rien de mieux. Alors, en revanche, je ne suis pas sûre que ce soit... J'ai eu beaucoup de discussions avec elle là-dessus. Et ce n'est pas simple pour elle, cette chose-là. Je le sais aussi.
Est-ce que vous avez été étonnée, Christine Angot, de la place que cette relation mère-fille a prise dans ce texte qui, comme je le disais, brasse beaucoup de questions économiques, politiques, du rapport au milieu artistique, du rapport au milieu littéraire, du rapport à la commande, du rapport à l'inceste. Le texte termine sur une page que vous avez écrite quand elle était tout bébé. Et où vous relisez, des années après, vous relisez la femme que vous êtes, qui questionne son rapport à la réalité, qui questionne son rapport à l'écriture, qui questionne son rapport à ce tout petit bébé. Et il y a comme une façon de se rejoindre à cet endroit-là qui est hyper tendre, hyper apaisé. On le soupçonne pas quand on commence le bouquin, qu'on va arriver là.
Ben ouais. Moi non plus. Hein, quand... D'abord, je ne savais plus que je l'avais, ce texte. En fait.
Que vous avez écrit quand elle était toute petite.
C'était justement un texte qui m'avait été commandé par une institution, par une école d'art, en fait, à Nice, à l'époque où j'y vivais. Et je me souvenais que j'avais fait ça, bien sûr, mais je ne me souvenais pas du tout. Enfin, je ne pensais que je n'avais plus le texte. Et quand je commence le livre, je pense pas spécialement à ce moment-là, à la Villa Arson, quoi. Pas du tout. Du tout. Mais, comment dire, il n'y a pas que Léonore, en fait. Il y a elle, bien entendu, mais il y a aussi tous les autres. Mmh. Il y a aussi toute la société artistique ou pas artistique. En fait, ce qui est un peu compliqué, je pense, c'est que l'art, l'écriture, l'art, la musique, etc., Princesse de Clèves et autres, sont des choses qui sont pures. C'est pur. Ben oui, on est dans l'abstrait et dans une certaine... on est dans quelque chose qui est au-dessus de nous. Bon. Mais ce n'est pas parce que cette chose-là est majeure et pure qu'elle ne traîne pas à ses basques toutes les vulgarités du temps, nos vulgarités à nous et celles qui nous entourent. Donc c'est ça aussi qui est extraordinaire dans l'art, dans la pratique d'un art ou dans la fréquentation d'un art ou de l'écriture, c'est que on est comme ça dans cette il y a ces deux choses.
Oui, mais d'ailleurs, à vous lire, c'est très étonnant le contraste qu'il y a entre, en effet, la pureté, l'absolu, votre décision de vivre avec pour l'écriture, et les milieux que ça vous demande de fréquenter, les relations...
Ça ne me demande pas, hein, je fais ce que je veux. Hein.
Que vous avez fréquenté, en effet, vous faites ce que vous voulez.
Ouais.
Personne ne...
Non, j'ai pas été obligée, personne m'a mis le couteau sous la gorge, j'avais pas d'intérêt particulier, c'était juste sur mon chemin. C'était sur mon chemin. En général, quand quelque chose est sur mon chemin, à moins d'avoir une bonne raison, je ne vois pas pourquoi je ne prendrais pas ce chemin.
Mmh. Et sur ce chemin-là, on peut dire que les relations que vous décrivez sont des relations tout à fait soumises à au mépris de classe, à la hiérarchie sociale la plus drastique et radicale, à l'organisation selon l'argent, mais au sens le plus vulgaire possible, c'est-à-dire que c'est à peine habillé de bonne manière, Christine Angot.
Mais c'est pas parce qu'on fait de l'art qu'on n'est pas des êtres sociaux et qui vivent. Enfin, je veux dire, voilà, il y a les mêmes, il y a les mêmes vulgarités, il y a les mêmes indélicatesses, il y a les mêmes rapports de pouvoir, ô combien, d'ailleurs. Il y a les hiérarchies, il y a des gens qui se placent au-dessus des autres, il y a des gens qui en placent d'autres au-dessus d'eux-mêmes ou des autres et qui décident de servir parce qu'ils y trouvent leurs avantages. Donc il y a aussi tout ça quand même. Autrement dit, c'est exactement la même chose, mais sauf qu'il y a cette idée de cette idée. Il y a aussi ça. Et c'est ça qui est beau en même temps. C'est-à-dire que les mêmes personnes, est-ce que c'est des salauds pour autant ?
Pour autant que quoi ?
Est-ce que parce qu'ils ont ce comportement comme ça, de un peu petit quand même, est-ce que pour autant c'est des salauds ?
Bah, pas plus que des salauds de l'autre reste de la société. C'est-à-dire que partout où ça se passe comme ça, ce serait des salauds sinon.
Voilà, donc c'est... Est-ce que ça les empêche d'être des artistes, d'être de vrais artistes et... Non plus. Donc, c'est ça. C'est cette rencontre-là.
Dans le texte, vous apparaissez comme résistant à tenir quand même... Il est beaucoup question de penser depuis le cœur, d'être attaché vraiment à l'art, à ce qu'on aime, à être comme... sincèrement, en fait, concerné par la production du beau, du vrai, Christine Angot. Et c'est comme si, au milieu de tout ce que vous
seul.
Décrivez...
Oui, mais ça, c'est seul.
Ouais.
Surtout quand on écrit.
Bah, vous semblez ça, pas lâcher l'affaire dans le bazar que vous traversez. On a l'impression que, c'est seul, mais qu'il faut quand même être armé d'une certaine résistance pour s'y atteler, pour continuer à y croire. Vous voyez ce que je veux dire ? On a l'impression
pour
que
continuer à y croire ?
Oui.
J'y crois.
Bah voilà, bah c'est ça que vous racontez, je crois.
Ça j'y crois. Ça j'y crois, j'y crois. Ça j'y crois, c'est sûr. Je ne crois pas forcément que je puisse y arriver tout le temps. Il y a plein de fois où je me dis « je n'y arrive pas ». C'est quand même ma grande phrase. Mais y croire, j'y crois. Ça c'est sûr et certain. En revanche... ça m'intéresserait pas du tout d'aller vivre au sommet d'une montagne toute seule ou avec deux personnes choisies. Pas du tout.
D'où l'idée de se farcir le monde avec ce que ça suppose de bassesse éventuelle.
C'est pas se farcir, c'est s'y mêler. S'y mêler, y être mêlé, parce que j'y suis mêlé, parce que l'art, de toute façon, bien sûr qu'il existe. Avec une pureté, mais ils s'adressent à la société quand même. C'est pas des anges, hein, il y a des anges dans les œuvres d'art, mais ce sont pas des anges qui regardent les œuvres d'art. Donc c'est aussi cette rencontre-là qui fait la tension et la beauté de l'existence de ce domaine-là qui est au-dessus de nous. On le sait tous.
À un moment donné, dans le texte, on a quand même l'impression que vous lâchez l'affaire avec l'idée d'appartenir à ce milieu, que c'est plus votre question. Alors que pendant tout un temps du début de votre parcours...
Ça n'a jamais été ma question. Jamais. Non, c'est pas du tout ça ma question.
Ou dans les tout premiers dîners que
même
vous décrivez avec Sophie Kahl...
L'idée n'est pas d'y appartenir.
Vous constatez que vous n'y appartenez pas.
Oui, mais il y a quelque chose d'autre avant. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a aussi un autre thème dont on n'a pas parlé, c'est l'arrivée à Paris. Ça aussi, c'est un thème littéraire, plutôt du 19e siècle. Bon, c'est l'arrivée à Paris, un personnage qui arrive à Paris. Donc il y a ça, ok. Et ce personnage écrit et veut écrire. Ok. À partir de là, ce personnage qui écrit et qui veut écrire rencontre des gens qui viennent vers lui ou qui viennent vers elle et qui disent « Ah, tu veux venir à telle soirée, à tel machin, etc. » Parce que, à ce moment-là, je suis reconnue ou identifiée comme faisant partie, pouvant faire partie de cette société d'artistes. Donc, on me propose « Ok, pourquoi j'irai pas ? Je vais là-bas. » Vous savez, c'est pas pire qu'un autre milieu social. Mais ça reste un milieu social, de toute façon. Voilà. Donc, c'est pas une recherche de faire partie. C'est juste... D'ailleurs, on voit bien dans le livre que la narratrice ne sent jamais... Elle sent tout le temps que, justement, elle est à côté. Après, il faudrait interroger les uns et les autres, savoir si peut-être que c'est pour tout le monde pareil. Pour autant, oui, si, même dans l'édition, il y a un petit peu ça. Mais peut-être qu'on est nombreux à ressentir ce petit décalage comme ça.
On a parlé du titre au départ, La nuit sur commande. Et vous racontez comment le lien immédiat a été fait entre la commande littéraire et la commande sexuelle subie de 13 à 16 ans, puis à 25 ans, Christine Angot. Ça ponctue le texte. Et ça revient comme dire « c'est là ». Tout à l'heure, vous avez dit « il y a des choses qui sont là et qui sont toujours ». Il y a une partie du texte, quelques pages, peut-être une page et demie, où vous dites « à tout moment de la journée, me revient l'idée ».
Non, pas à tout moment de la journée, heureusement, parce que sinon je ne pourrais pas vivre. Mais par moment, dans une journée, il y a toujours un moment, c'est pas à tout moment de la journée, mais dans une journée, il y a toujours un moment où je me dis, mais c'est pas vrai qu'il m'est arrivé ça. Voilà. C'est des moments d'incrédulité. C'est dans certains moments de vide. Il y a plein de moments de vide. Je descends un escalier, j'ai rien à faire d'autre qu'à descendre l'escalier. C'est un moment de vide. Y a plein de choses comme ça. Vous pouvez être occupé à quelque chose pendant lequel vous ne réfléchissez pas. Et voilà. Mais j'ai vécu ça. C'est pas vrai que j'ai... Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, vous êtes connecté à celle que vous étiez à 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Qui longeait le musée, enfin, vous savez, il y a ce petit passage. Et c'est pour ça. Donc, vous restez connecté toute votre vie à celle-là, à celle qui a 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Toujours. Et par moments, même si elle a grandi et vieilli avec vous, elle est là. Et donc, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai que j'ai vécu ça. Ben si, c'est vrai.
Vous dites aussi que vous ne pouvez pas faire l'économie de mettre en lien ce que vous écrivez avec cette violence que vous avez subie, sinon ce serait écrire sur du vent. Ça vaut pour tous les textes, Christine Angot ?
Oui. Ben, si vous voulez, non, ça ne vaut pas pour tous les textes. Ça ne vaut pas pour les textes écrits par ChatGPT et ça ne vaut pas pour les films faits par les... Comment ça s'appelle ? Par les...
Intelligence artificielle.
Quoi ? Par les drones. Bon, voilà. Là, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, ça, c'est une question que j'ai fini par répondre l'année dernière, quand j'ai sorti un film. Il y avait toujours, mais toujours dans la salle, quand il y avait des débats, toujours quelqu'un qui me demandait quand est-ce que vous allez enfin là, parce que ça va mieux et tout, vous allez pouvoir passer à autre chose. Et à un moment, j'en pouvais plus d'entendre cette phrase tout le temps, quoi, tous les soirs, une fois au moins. Et je répondais gentiment, etc., comme je pouvais. Et puis, un soir, j'ai dit, ce jour va arriver. Ce jour va arriver, en effet, où on pourra lire des livres et voir des films qui auront été faits par des gens qui n'ont pas de vie. C'est très possible. Et c'est en cours. Voilà. C'est en cours. Donc, c'est ça que les gens demandent à ce moment-là. Moi, les gens qui me demandent, parce que ça, alors là, je dois dire qu'à chaque sortie de livre, il y a forcément des gens qui me demandent si je vais passer à autre chose. Ces gens-là demandent à lire des livres qui ont été écrits par des gens qui n'ont pas de vie. Ça, il faut quand même bien le voir.
C'est pas le cas de ce livre-là. Le book club continue.
France Culture, le book club, Marie Richeux.
15h50 le lundi. On a rendez-vous avec vous, Clémentine Mélois, pour une rubrique qui s'appelle « Lecture d'actualité ». Vous étiez en résidence ces dernières semaines. Merci beaucoup d'avoir relevé ce défi de lire pour nous chaque lundi des livres en fonction d'un fait d'actualité. Bonjour Clémentine, aujourd'hui vous nous parlez de collection.
Bonjour Marie. Oui, dans son livre « Le collectionneur de collections », le peintre et écrivain Henri Cueco recensait quelques-unes de ses collections. Il collectionnait les queues de cerises, les vieilles godasses, les ficelles et même les silences. Pour lui, l'humanité se divise en deux catégories, les jeteurs et les gardeurs. Pour ma part, je fais sans aucun doute partie des gardeurs. Je collectionne les listes de courses trouvées dans la rue, les étiquettes d'affranchissement standard, vous savez, les timbres bleus très moches. Et j'ai aussi une belle collection...
Autocollante.
Ah,
rectangulaire.
Voilà, c'est ça. J'en ai une très belle collection. Et j'ai aussi une belle collection de phrases contemporaines.
Des phrases contemporaines, il faut que vous... J'étais complètement, mais vraiment à la poste, quoi. Il faut que vous nous expliquiez en quoi consiste cette dernière.
Alors, pour collectionner les phrases contemporaines, Marie, c'est très simple. Il suffit de noter dès qu'elles se présentent toute phrase qui n'aurait eu aucun sens il y a, mettons, 50 ans.
Ça y est, je vous rejoins. Voilà. Je suis de nouveau avec vous.
Je dis 50 ans à titre indicatif parce que certaines phrases de ma collection n'auraient eu aucun sens il y a 3 semaines et seront déjà périmées demain. Voici quelques exemples. De nombreux gilets jaunes ont rejoint la liste de Francis Lalanne. Michel Sardou, potentiel cas contact de Roselyne Bachelot. Elle est partie en RTT avec son plan Tinder. Venez tester votre éligibilité à la fibre. Alors, la dernière que j'ai notée était le titre d'un article de journal. Elle date du mois dernier, mais semble remonter à un temps déjà très ancien. Le côté éminemment périssable du matériau fait partie du charme de la collection. Voilà la phrase en question. François Bayrou a dégainé ses premiers 49.3. Alors quand je lis que François Bayrou a dégainé ses premiers 49.3, je comprends cette phrase parce que j'ai la ref, comme disent les jeunes. Mais ma grand-mère Germaine, si elle était encore de ce monde, ne comprendrait sans doute rien. Elle imaginerait peut-être que François Bayrou est un cow-boy et que le 49.3 est un calibre de pistolet. François Bayrou a dégainé ses premiers 49.3, puis il a frappé dans la porte battante du saloon et a commandé un double scotch. Cette collection de phrases ouvre pour moi une sorte de faille linguistique dans le réel. Et cette faille linguistique évoque pour moi les récits du romancier américain Philip K. Dick, l'un des maîtres du roman d'anticipation.
Ou comment vous retombez sur vos pieds de sortir un livre de votre bibliothèque, Clémentine Mélois. Alors, quelle faille linguistique dans le réel peut-on voir, selon vous, dans les romans de Philip K. Dick?
J'avoue que c'est formulé de façon un peu alambiquée.
Non, c'est bien, franchement, ça le fait.
Les romans de Philip K. Dick sont pour la plupart des uchronies, c'est-à-dire des récits de science-fiction basés sur la réécriture de l'histoire. Les personnages de K. Dick vivent dans un monde dystopique, mais ne sont pas des super-héros. Ce qui les rend bouleversants, c'est qu'il s'agit de gens ordinaires, avec des aspirations, des faiblesses ordinaires. Seule la société dans laquelle ils évoluent diffère de la nôtre, et K. Dick l'indique en intégrant subtilement au récit certains éléments fictifs, qu'il se contente de nommer sans donner d'explication au lecteur. C'est un procédé littéraire tout simple, mais incroyablement puissant. L'uchronie se met à exister par l'usage de mots inconnus.
Et est-ce que vous pouvez nous donner un exemple?
Le roman Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, plus connu aujourd'hui sous le titre de Blade Runner, paru en 1966, commence par exemple comme ça dans la traduction de Sébastien Guyot. Ce fut le déclic de l'orgue d'humeur situé près de son lit qui réveilla Rick Descartes. Surpris, ça le surprenait toujours de se retrouver éveillé sans préavis, il s'extirpa de son lit, se redressa dans son pyjama multicolore et s'étira. Iran, son épouse, ouvrit alors ses tristes yeux gris, battit des paupières, puis le reforma dans un grognement. « Tu règles ton penfil trop bas, lui dit-il. Je vais changer le réglage, ça va te réveiller et... Ne touche pas à mes réglages. » Je mets le ton, hein. Sa voix recelait une aigreur glaciale. « Je ne veux pas être réveillé. » La marque Penfield n'existe pas, et le lecteur ne sait pas encore ce qu'est un orgue d'humeur. Et c'est là tout le génie de K. Dick. Avec une remarquable économie de moyens, il réussit le tour de force de nous plonger dans la banale quotidienneté d'un couple, tout en nous faisant immédiatement comprendre qu'il s'agit d'un récit de science-fiction.
Et alors, qu'est-ce que vous faites comme lien, puisque c'est aussi le principe de cette chronique, entre l'actualité et les romans de Philip K. Dick?
Eh bien, l'orgue d'humeur de Descartes ne me semble pas plus incongru que la dernière pub pour des yaourts ou que la dernière dépêche AFP. Ces derniers temps, lorsque j'ajoute une nouvelle phrase à ma collection ou lorsque je lis le journal, j'ai souvent l'impression de découvrir un inédit de Philippe K. Dick. Je me dis « Ah, encore un truc auquel il avait pensé ». Si l'on relit attentivement les 40 romans et les presque 200 nouvelles de Philippe K. Dick, on pourra trouver des traces anticipées des attaques de drones, de l'intelligence artificielle, de la surveillance de masse, des réseaux sociaux, de la montée des nouvelles formes de fascisme, des plans Tinder, des 49-3 dégainés par François Bayrou, et de bien d'autres nouvelles dont on aurait préféré qu'elles restent de la science-fiction.
Merci beaucoup Clémentine Mélois pour toutes ces lectures d'actu. On vous réécoute sur franceculture.fr et puis on peut vous lire aussi. Un grand merci.
Merci Marie.
À cette heure-ci, Christine Angot, on termine le book club en cherchant toujours de la musique dans les livres et on en a trouvé dans votre livre La nuit sur commande. Vous évoquez le film que vous avez réalisé et les rencontres que vous faites partout en France. Le distributeur m'accompagnait et a noté les mots qui revenaient dans mes réponses tous les soirs. Humiliation, indignité, honte, déshonneur, une famille. C'était quoi être une famille dans les années 60-70? Qu'est-ce que ça représentait, notamment pour ta mère? Le fait que je n'ai pas été reconnue par mon père, l'admiration, cette génération de femmes qui admiraient les hommes intelligents, le pardon, ou le fait de ne pas pardonner, le déni, la respectabilité sociale, la tristesse, les pleurs, la souffrance, la solitude, parce que j'avais dit « je m'en fous de la solitude », la colère, la justice, qui allait avec deux autres mots, non-lieu et loi. Le juge Durand, le côté catholique de croire, l'expression « je te crois », ma réaction « je m'en fous » et « de toute façon c'est vrai ». Et aussi « ça m'intéresse ». Ça m'intéresse de voir, ça m'intéresse d'écrire, de voir et faire voir ce qu'ils ont dans la tête. La beauté et le beau, ça nous appartient autant qu'aux autres. Caetano Veloso, qui avait accepté d'enregistrer la mère de Charles Trenet sur le générique et les dernières images du film.
La mère. Qu'on voit danser le long des golfes clairs, à des reflets d'argent, la mer. Des reflets changeants sous la pluie, la mer au ciel d'été confond. Ces blancs moutons.
Merci beaucoup Christine Angot d'avoir été avec nous pour parler de La nuit sur commande, parue dans la collection Ma nuit au musée aux éditions Stock. Au son aujourd'hui c'était Noé Chaban, à la réalisation Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club et particulièrement aujourd'hui à Jeanne Aléos. Vous pouvez poursuivre la conversation sur le compte Instagram du Book Club animé par Alexandra Laïbegovitch.